Guerre et paix. Première partie, chapitre 4, scène 1. Au commencement de l'année 1806, Nicolas Rostov et Denissov retournèrent chez eux en congé. Comme ce dernier allait à Voronej, Rostov lui proposa de faire avec lui la route jusqu'à Moscou, et même de s'y arrêter quelques jours chez ses parents. À l'avant-dernier relais, Denissov fêta la rencontre d'un ancien camarade en vidant avec lui 3 bouteilles de vin. Aussi, malgré les terribles secousses qui le cahotaient dans le traîneau où il était couché de tout son long, il ne se réveilla pas un instant. Plus ils approchaient, plus l'impatience de Rostov augmentait.
« Plus vite, plus vite! Oh, ces rues interminables, ces magasins, ces vendeurs de kalatch, ces lanternes, ces izvotchiki !»
se disait-il après avoir passé la barrière où l'on avait inscrit leur nom et leur arrivée en congé.
« Denissov, nous y sommes ! Il dort !»
Et il se pencha en avant, comme si, par ce mouvement, il pouvait augmenter la vitesse de leur course.
« Voilà le carrefour où se tient Zakhar, l'Isvostchiki, et voilà Zakhar lui-même et son cheval. Ah, voilà la boutique où j'achetais du pain d'épices. Quand donc arriverons-nous? Va donc !»« Où faut-il s'arrêter ?»
demanda le postillon.
« Mais là-bas, au bout, à ce grand bâtiment, comment ne le vois-tu pas? Tu sais pourtant bien que c'est notre maison. Denissov, Denissov, nous arrivons !»
Denissov souleva la tête et toussa sans répondre.
« Dmitri, »
dit Rostov en s'adressant au laquais assis près du cocher.
« Est-ce bien chez nous cette lumière ? Oh que oui, c'est dans le cabinet de votre père. Ils ne seront pas encore couchés, hein, qu'en penses-tu ? À propos, n'oublie pas de déballer aussi mon nouvel uniforme. »
Et il se passa la main sur sa jeune moustache.
« Eh bien donc, en avant ! Réveille-toi donc, Vasya ! »
Mais Denissov s'était de nouveau endormi.
« Marche, marche! 3 roubles de pourboire !»
s'écria Rostov, qui, à quelques pas de chez lui, croyait ne jamais arriver. Le traîneau prit sur la droite et s'arrêta devant le perron. Rostov reconnut la corniche ébréchée, la borne du trottoir, et s'élança hors du traîneau avant qu'il se fût arrêté. Il franchit les marches d'un bond. L'extérieur de la maison était aussi froid, aussi calme que par le passé. Que faisait à ces murs de pierre l'arrivée ou le départ? Personne dans le vestibule.
« Mon Dieu, serait-il arrivé quelque chose ?»
se dit Rostov avec un serrement de cœur. Il s'arrêta une minute, puis reprit sa course dans l'escalier, aux marches usées qu'il connaissait si bien.
Et voilà le même bouton de porte déjeté dont la malpropreté agaçait toujours la comtesse. Et voilà l'antichambre.
Elle n'était éclairée dans ce moment que par une chandelle. Le vieux Michel dormait sur une banquette et Procope, le laquais, cet athlète d'une force proverbiale qui soulevait l'arrière-train d'une voiture, tressait dans un coin des chaussures en écorce. Il se retourna au bruit de la porte qui s'ouvrait avec fracas, et sa figure endormie et insouciante exprima subitement une joie mêlée de terreur.
« Ah, notre père et les saints archanges, le jeune comte !»
s'écria-t-il.
« C'est-il possible ?»
Et Procope, tremblant d'émotion, se précipita vers la porte du salon. Mais, revenant aussitôt sur ses pas, il se jeta sur l'épaule de son maître et la baisa.
« Ils se portent tous bien ?»
demanda Rostov en lui retirant sa main.
« Dieu soit loué ! Dieu soit loué ! Ils viennent seulement de finir de dîner. Laisse-toi donc regarder, votre excellence !»«
Ainsi donc, tout va bien ?»«
Dieu merci ! Dieu merci !»
Rostov, oubliant Denissov et ne voulant pas se laisser devancer par le domestique, jeta sa pelisse et entra, en courant sur la pointe des pieds, dans la grande salle obscure. Les tables de jeu y étaient à la même place, et le lustre était toujours enveloppé dans sa housse. Il n'était pas arrivé au salon qu'un ouragan impétueux s'abattit sur lui d'une porte latérale et le couvrit de baisers. un second, un troisième, l'enveloppèrent à leur tour. Ce ne fut plus qu'embrassements, exclamations et larmes de joie. Il ne savait lequel des trois était son père, Natacha ou Pétia. Tous criaient, parlaient et l'embrassaient en même temps. Mais il remarqua l'absence de sa mère.
« Et moi qui ne le savais pas, Nikolushka, mon ami !»«
Le voilà, c'est bien lui, collier à mon bijou. Est-il changé? Il n'y a pas de lumière, vite, du thé !»«
Mais embrasse-moi donc !»«
Ma bonne petite âme !»
Sonia, Natacha, Pétia, Anna Mikhailovna, Vera, le vieux comte, tous le serraient dans leurs bras à tour de rôle, et les domestiques et les filles de chambre entraient à la suite les uns des autres, poussaient des exclamations. Pétia se cramponnait à ses jambes et criait
« Et moi donc, et moi donc !»
Natacha, après l'avoir étouffée de baisers, avait saisi sa veste et sautait comme une chèvre sans changer de place et en poussant des cris aigus. On ne voyait que les yeux brillants de larmes de joie et d'affection, et les lèvres se rapprochaient pour échanger de nouveaux baisers. Sonia, rouge comme le koumatch, le tenait par la main et fixait sur lui un regard rayonnant de bonheur. Elle venait d'avoir 16 ans. Elle était jolie, et l'exaltation du moment doublait encore sa beauté. Toute haletante, elle ne le quittait pas des yeux et souriait. Il lui répondit par un regard plein de reconnaissance. Mais on voyait qu'il cherchait, qu'il attendait quelqu'un. Sa mère, qui ne s'était pas encore montrée. Tout à coup, on entendit derrière la porte des pas si précipités, rapides, qu'ils ne pouvaient être que ceux de la comtesse. Tous s'écartèrent, et il s'élança à son cou. Elle tomba dans ses bras en sanglotant. Sans avoir la force de relever la tête, elle se serrait contre lui, sa figure appuyée contre les froids brandebourgs de son uniforme. Denisov, qui était entré sans être remarqué, les regardait et s'essuyait les yeux.
« Vassili Denisov, l'ami de votre fils !»
dit-il au comte, qui regardait avec étonnement le nouveau venu.
« Ah, je sais, très heureux !»
dit le comte en l'embrassant.
« Nikolushka nous l'avait écrit, Natacha, Vera, le voilà, c'est Denisov !»
Tous ces visages, rayonnants de joie, se tournèrent aussitôt vers la personne ébouriffée de Denisov et l'entourèrent.
« Mon cher petit Denisov !»
dit Natacha, à laquelle la joie avait troublé la cervelle. Et, s'élançant vers lui, elle l'embrassa. Denisov, légèrement embarrassé, rougit, prenant la main de Natacha, la baisa galamment. Sa chambre étant préparée, on l'y conduisit pendant que les Rostov se groupaient autour de Nicolas dans le grand salon. La vieille comtesse n'avait pas lâché la main de son fils, et elle la portait à chaque instant à ses lèvres. Frères et sœurs suivaient à l'envi chacun de ses gestes, de ses mots, de ses regards, se disputant à qui serait le plus près de lui et s'arrachant la tasse de thé, le mouchoir, la pipe, pour les lui présenter. La première minute du retour de Rostov lui avait fait éprouver une sensation de bonheur si complète qu'il lui semblait ne pouvoir plus que s'affaiblir, et, dans son émotion, il en demandait encore et encore. Le lendemain, il dormit jusqu'à 10 heures du matin. Dans la pièce voisine, imprégnée d'une forte odeur de tabac, traînaient de tous côtés des sabres, des gibernes, des havresacs, des malles ouvertes, des bottes sales, à côté desquelles se dressaient contre le mur d'autres bottes bien cirées, avec leurs éperons. Les domestiques portaient des lavabos, de l'eau chaude pour la barbe, et les habits qu'ils venaient de brosser.
« Hé, Grishka, la pipe !»
s'écria Denisov d'une voix enrouée.
« Rostov, lève-toi donc !»
Rostov, se frottant les yeux, souleva de dessus son chaud oreiller sa chevelure emmêlée.
« Est-il tard ?»«
Mais oui, il est tard. Il est 10 heures, »
répondit la voix de Natacha. Et l'on entendit derrière la porte un frôlement de robes et de jupons fortement empressés qui se mêlait au chuchotement et au rire des jeunes filles, dont on apercevait par l'entrebâillement les rubans bleus, les yeux noirs et les figures joyeuses. C'était Natacha, Sonia et Petia qui venaient savoir s'il était levé.
« Nikolushka, lève-toi !» répétait Natacha.
« Tout de suite !»
Petia, ayant aperçu un sabre, s'en saisit aussitôt. Emporté par l'élan guerrier que la vue d'un frère aîné, militaire, provoque toujours chez les petits garçons, et oubliant qu'il n'était pas convenable pour ses sœurs de voir des hommes déshabillés, il ouvrit brusquement la porte.
« Est-ce ton sabre ?»
se mit-il à crier, pendant que les petites filles se jetaient de côté. Denisov, épouvanté, cacha aussitôt ses pieds velus sous la couverture, en appelant des yeux son camarade à son secours. La porte se referma sur Petia.
« Nicolas, dit Natacha, viens ici en robe de chambre.
« Est-ce son sabre ou le vôtre ?»
demanda Petia en s'adressant à Denisov, dont les longues moustaches noires lui inspiraient du respect. Rostov se chaussa à la hâte, endossa sa robe de chambre et passa dans l'autre pièce, où il trouva Natacha qui avait mis une de ses bottes à éperons et glissait son pied dans l'autre. Sonia pirouettait et faisait le ballon. Toutes deux, fraîches, gaies et animées, portaient de nouvelles robes bleues, pareilles. Sonia s'enfuit au plus vite, et Natacha, s'emparant de son frère, l'emmena pour causer avec lui plus à son aise. Il s'établit alors entre eux un feu roulant de questions et de réponses, qui avait pour objet des bagatelles d'un intérêt tout personnel. Natacha riait à chaque mot, non de ce qu'il disait, mais parce que la joie qui remplissait son âme ne pouvait se traduire que par le rire.
« Comme c'est bien, c'est parfait !» répétait-elle.
Et Rostov, sous l'influence de ces chaudes effluves de tendresse, retrouvait insensiblement ce sourire d'enfant qui, depuis son départ, ne s'était pas épanoui une seule fois sur ses traits.
« Sais-tu que tu es devenu un homme, un véritable homme ? Et je suis si fière de t'avoir pour frère !»
Elle lui passa les doigts sur la moustache.
Je voudrais bien savoir comment vous êtes, vous autres hommes. Est-ce que vous nous ressemblez ? Non, n'est-ce pas ?
Pourquoi Sonia s'est-elle sauvée ?
Lui demanda son frère.
Oh, c'est toute une histoire. Comment parleras-tu à Sonia ? La tutoieras-tu ?
Mais je ne sais pas comme cela viendra.
Eh bien alors, dis-lui vous, je t'en prie, et tu sauras après pourquoi.
Mais pourquoi ?
Eh bien, je vais te le dire. Sonia est mon amie, et une si grande amie que j'ai brûlé mon bras pour elle.
Et, relevant sa manche de mousseline, elle laissa voir, sur son bras blanc et mince, un peu plus bas que l'épaule, à l'endroit couvert ordinairement par le haut des manches, une tache rouge.
C'est moi qui me suis brûlée pour lui prouver mon amour. J'ai pris une règle rougie au feu, et je me la suis appliquée là. »
Étendue sur le canapé, garni de coussins, de leur chambre d'études, regardant les yeux brillants de Natacha, Rostov s'enfonçait de nouveau avec bonheur dans ce monde enfantin, dans ce monde intime de la famille, dont les propos n'avaient de sens et de valeur que pour lui, et lui faisaient éprouver une des plus douces jouissances de sa vie. Aussi, la brûlure du bras, comme témoignage d'affection, lui parut-elle toute simple. Il le comprenait sans s'en étonner.
« Eh bien, et après, c'est tout ?»«
Nous sommes si liés, que ceci n'est rien. Ce ne sont que des folies. Nous sommes amis pour toujours. Quand elle aime quelqu'un, c'est pour la vie. Quant à moi, je ne la comprends pas. J'oublie tout de suite. »
« Eh bien, et puis ?»«
Eh bien, elle t'aime comme elle-même. » Natacha rougit. « Tu dois te rappeler, tu sais, avant ton départ. Eh bien, elle assure que tu oublieras tout cela. Elle a dit, je l'aimerai, moi, toujours. Mais lui, il faut qu'il soit libre. N'est-ce pas que c'est beau ? Et que c'est noble ? Bien noble, n'est-ce pas ?»
Et Natacha demandait cela avec un tel sérieux et avec une telle émotion qu'on voyait bien qu'elle devait s'être attendrie plus d'une fois déjà sur ce sujet. Rostov réfléchit quelques secondes.
Je ne reprends pas ma parole,
dit-il.
Et puis, Sonia est si ravissante qu'il faudrait être un triple imbécile pour refuser un honneur pareil.
Non, non, s'écria Natacha. Nous en avons déjà parlé. Nous étions sûrs, vois-tu, que tu répondrais ainsi. Mais cela ne se peut pas, parce que, comprends-le bien, si tu te regardes seulement comme liée par ta parole, il en résulte qu'elle a l'air de l'avoir dit exprès. Tu l'épouseras alors par point d'honneur, et cela ne sera plus du tout la même chose. »
Rostov ne trouva rien à redire. Sonia l'avait frappé la veille par sa beauté, et ce matin, elle lui avait semblé encore plus jolie. Elle avait 16 ans. Elle l'aimait avec passion, il en était sûr. Pourquoi ne pas l'aimer dès lors, même en ajournant toute idée de mariage ?
J'ai encore tant de plaisirs et de jouissances inconnues devant moi,
se disait-il.
Oui, c'est très bien combiné, il ne faut pas s'engager. C'est parfait, nous en causerons plus tard,
dit-il à haute voix.
Mais comme je suis content de te revoir ! Et toi, es-tu resté fidèle à Boris ?
Ah, quelle folie ! S'écria Natacha en riant. Je ne pense ni à l'un ni à personne, et je n'en veux rien savoir.
Bravo ! Mais alors ?
Moi ? Dit Natacha, et un sourire éclaira son petit visage. As-tu vu Duport, le fameux danseur ? Non ? Alors tu ne comprendras pas. Regarde.
Natacha, arrondissant les bras et levant le coin de sa robe, s'élança, se retourna, fit un entrechat, puis deux, et, s'élevant sur la pointe des pieds, fit ainsi quelques pas.
Je me tiens, tu vois, sur mes pointes, tu le vois ? Eh bien, jamais je ne me marierai. Je me ferai danseuse. Seulement, n'en parle pas.
Rostov éclata d'un rire si joyeux et si franc que Denisov le lui envia, et Natacha ne put s'empêcher de le partager.
Qu'en dis-tu ? C'est bien, n'est-ce pas ?
Comment si c'est bien ? Tu ne veux donc plus épouser Boris ?
Elle devint pourpre.
Et je ne veux épouser personne, et je le lui dirai à lui-même lorsque je le verrai.
Oui, da,
dit Rostov.
Bah, ce sont des folies, continua-t-elle en riant. Et ton Denisov, est-il bon ?
Très bon.
Eh bien, adieu, habille-toi. Et il n'est pas effrayant, ton Denisov ?
Pourquoi effrayant ? Vaska est un brave garçon.
Tu l'appelles Vaska ? Comme c'est drôle. Et il est vraiment bon ?
Mais oui !
Adieu, dépêche-toi, et viens prendre le thé, tous ensemble.
Natacha quitta la chambre sur la pointe des pieds, comme une véritable danseuse, et en souriant comme une petite fille de 15 ans. Rostov se rendit bientôt au salon, où il trouva Sonia. Il rougit, et ne sut comment l'aborder. Ils s'étaient embrassés la veille, dans leur première explosion de joie. Mais aujourd'hui, il comprenait que ce n'était plus possible. Il sentait peser sur lui le regard interrogateur de sa mère et de ses sœurs, qui cherchaient à pressentir ce qu'il allait faire. Il lui baisa la main et lui dit « vous », tandis que leurs yeux se rencontrant semblaient se tutoyer et s'embrasser avec tendresse. Ceux de Sonia semblaient implorer son pardon pour avoir osé lui rappeler sa promesse par l'intermédiaire de Natacha, et le remerciait de son amour. Lui, de son côté, la remerciait de l'avoir dégagée de sa parole et lui disait qu'il ne cesserait jamais de l'aimer, parce que l'avoir, c'est l'aimer.
« Voilà qui est bien singulier, » dit Vera, profitant d'un moment de silence général. « Sonia et Nicolas se disent « vous », comme des étrangers. »
Elle avait dit juste, comme toujours, mais comme toujours aussi, elle avait parlé mal à propos. Et chacun, sans en excepter la vieille comtesse, qui voyait dans cet amour un obstacle à un brillant mariage pour son fils, rougit d'un air embarrassé. Denisov entra au même moment, vêtu d'un nouvel uniforme, pommadé, parfumé, frisé comme un jour de bataille, et son amabilité inusitée avec les dames causa à Rostov une profonde surprise.